Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 17h à Paris, 15h en temps universel et 8h à Vancouver. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, le retour à la normale progressif en Espagne et au Portugal après la très longue coupure de courant. L'électricité est maintenant quasiment rétablie, reste à comprendre ce qui s'est passé. La justice espagnole va ouvrir une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Washington n'a toujours pas réagi à la victoire électorale de Mark Carney au Canada. Toutefois, les libéraux ne devraient pas avoir la majorité absolue au Parlement à suivre dès le début du journal. Au sommaire également, Israël qui pourrait mettre fin à la guerre à Gaza dans les prochains mois. Israël accusé par Amnesty International de commettre un génocide en direct. Et puis football, Arsenal, Paris Saint-Germain pour une place en finale de la Ligue des Champions. Match aller ce soir à Londres. Le Canada a donc voté libéral et contre l'Amérique de Donald Trump. Les élections législatives d'hier ont comme prévu tourné à l'avantage du camp libéral, emmené par l'actuel Premier ministre Mark Carney. Victoire historique et encore impensable il y a quelques mois quand les conservateurs étaient donnés favoris. Mais c'est une victoire très serrée, remportée dans un mouchoir de poche, à peine 2% d'écart entre libéraux et conservateurs. D'où les questions, Juliette Chénion, sur la manière dont Mark Carney va pouvoir gouverner.
Oui, quelques bulletins de vote n'ont pas encore été dépouillé, mais d'après les projections de plusieurs médias canadiens, il y a de grandes chances que le Parti libéral soit minoritaire au Parlement et doive faire alliance avec d'autres partis. Cette fois-ci, l'appui du nouveau Parti démocratique semble compromis, car la formation de gauche n'a obtenu que 7 sièges et son chef a démissionné. Le Bloc québécois, parti indépendantiste, troisième force de l'Assemblée, pourrait donc s'imposer comme un acteur décisif. De son côté, le conservateur Pierre Poilievre, grand perdant de l'élection, a déjà dit vouloir travailler avec le vainqueur pour défendre les intérêts du Canada face aux menaces de guerre commerciale et d'annexion des États-Unis.
Alors voilà pour les résultats. Côté réaction maintenant, Juliette, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Ukraine, mais aussi le chef de l'OTAN et l'Inde ont salué la victoire de Mark Carney, mais une réaction manque à l'appel.
Oui, celle de Donald Trump, un silence visiblement embarrassé de Washington. Hier soir, le Premier ministre canadien a promis de tout faire pour empêcher les États-Unis de s'approprier le territoire et les ressources canadiennes. Le même jour, Donald Trump avait à nouveau martelé sa volonté d'annexer le Canada, peu probable donc qu'il félicite Mark Carney pour sa victoire.
Juliette Chénion en direct dans ce journal, merci à vous. Les relations des États-Unis sont difficiles, pas seulement avec le Canada, elles le sont aussi avec le Mexique à la frontière sud. Mais bonne nouvelle, la guerre de l'eau n'aura pas lieu entre les deux voisins. Ils viennent de conclure un accord prévoyant des livraisons d'eau aux États-Unis et ce afin de réduire les pénuries qui touchent les agriculteurs texans. Les précisions de Myriam Berber.
Le Mexique a accepté d'envoyer immédiatement de l'eau provenant du Rio Grande aux agriculteurs texans et s'est engagé à faire plus de livraisons durant la prochaine saison des pluies. Cet accord trouvé entre les deux pays montre que le Mexique a l'intention de remplir ses engagements en vertu du traité de 1944. Ce traité prévoit en effet le partage des eaux des rivières qui traversent la frontière commune aux deux pays. Les États-Unis fournissent de l'eau provenant du fleuve Colorado. En retour, le Mexique fournit de l'eau aux Américains à partir du Rio Grande. Mais depuis le mois de mars, Washington accuse Mexico de retard dans les livraisons. Le Texas n'a reçu que la moitié du volume d'eau prévu dans le traité et les producteurs de canne à sucre, de coton et d'agrumes sont furieux. Le Mexique a en effet une importante dette envers son voisin américain car ces trois dernières années, avec la sécheresse aggravée par le réchauffement climatique, le Rio Grande est à sec. Le fleuve est épuisé que l'on pompe ses eaux aussi intensément des deux côtés de la frontière.
Myriam Berber du service éco de la rédaction. Autre grand titre dans l'actualité du jour, c'est le retour à la normale progressive sur la péninsule ibérique. Après la coupure géante d'hier, l'électricité est maintenant quasiment rétablie en Espagne et totalement au Portugal. D'après les premiers éléments à leur disposition, l'opérateur du réseau électrique espagnol, de même que le gouvernement portugais, exclut l'hypothèse d'une cyberattaque. Toutefois, la justice espagnole a ouvert une enquête sur un possible sabotage informatique. Le ministère israélien des Affaires étrangères réfute les mensonges, selon lui sans fondement, d'Amnesty International. Dans un rapport sur les droits de l'homme dans le monde, l'ONG souligne que la situation la plus dramatique est celle de la bande de Gaza, où Israël, je cite, commettrait un génocide en direct. Dans ce contexte, et selon un journal israélien, Benjamin Netanyahou envisage la fin de la guerre à Gaza dans les tout prochains mois. Les précisions sur place à Jérusalem de Sami Boukhelifa.
L'arrêt des combats interviendrait d'ici octobre 2025, soit après presque 2 ans de guerre, selon le journal Israel Hayom, qui cite des sources proches de Benjamin Netanyahou. Jusque-là, le premier ministre israélien a toujours refusé d'évoquer la fin des bombardements et de l'incursion de ses troupes à Gaza, répétant sans cesse que la guerre allait être longue et difficile. Ces déclarations surviennent au moment où Washington exprime sa volonté de mettre un terme à cette situation. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin de l'occupation militaire. Lors d'un discours en début de semaine, Benjamin Netanyahou a averti « Le Hamas n'a pas sa place à Gaza et l'autorité palestinienne non plus. Pourquoi remplacer un régime qui souhaite notre destruction par un autre régime qui souhaite notre destruction ?» Israël rejette ainsi toute solution politique. En attendant, à Gaza, la population subit des massacres quotidiens et le premier ministre israélien continue de plaider pour le départ volontaire des Gazaouis, une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international. Sami Bourfa, Jérusalem. RFI.
En Syrie, au moins 13 morts dans les affrontements interreligieux près de Damas. Les affrontements ont été déclenchés par l'enregistrement sonore d'un homme de confession druze maudissant le prophète Mahomet. Il a provoqué la colère d'hommes armés sunnites. Ce sont les dernières violences meurtrières en date liées à la religion en Syrie. Les craintes des minorités ne cessent de croître depuis qu'une coalition islamiste a pris le pouvoir. En France, un ancien rebelle syrien, Majdi Nema, comparé depuis ce matin devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour complicité de crimes de guerre commis dans son pays entre 2013 et 2016. L'homme âgé aujourd'hui de 36 ans conteste les accusations. Il affirme n'avoir eu qu'un rôle limité au sein de son groupe salafiste. En Iran, il a fallu aux pompiers presque 3 jours de lutte pour maîtriser l'incendie qui ravageait le principal port du pays. Selon les autorités, le feu s'est déclaré samedi suite à une explosion attribuée à une négligence. Il y a au moins 70 morts et des centaines de blessés. En France, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage à Aboubakar Cissé, ce jeune Malien tué de plusieurs dizaines de coups de couteau la semaine dernière dans une mosquée du sud de la France. Ce moment de recueillement a été respecté par l'ensemble des députés présents. L'auteur présumé du meurtre s'est rendu à la police italienne dans la nuit de dimanche à lundi. Allez, on prend maintenant un peu de hauteur car une nouvelle constellation vient de rejoindre le ciel. Amazon a déployé la nuit dernière 27 nouveaux satellites, les premiers d'une longue série. Le projet baptisé Kuiper fournira une connexion Internet. Il vient concurrencer Starlink, le réseau d'Elon Musk qui propose déjà un service très similaire. Kuiper a-t-il ses chances malgré le contexte géopolitique ? Élément de réponse avec l'IA Roisin Pilot.
Pour l'instant, difficile d'anticiper. Kuiper n'en est qu'à ses débuts. À terme, le réseau devrait compter 3200 satellites, dont la moitié mise en orbite d'ici l'année prochaine. Paul Warrer est responsable du programme Espace à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
L'intérêt qu'il peut y avoir avec Kuiper, mais d'abord, c'est que ça fait de la concurrence, donc il est possible que ça tire les prix vers le bas.
Le deuxième aspect, c'est tout l'intérêt de la connectivité avec l'infrastructure Amazon et notamment toute l'infrastructure cloud, en plus d'avoir accès à des services de connectivité par satellite.
De son côté, Starlink est déjà bien implanté, près de 7000 satellites, mais ce réseau dépend de l'entreprise SpaceX et son principal défaut, c'est peut-être son propriétaire.
Il appartient à Elon Musk qui a un contrôle très très important sur le système, qui est capable de le couper à peu près à n'importe quel moment. Des armées notamment qui souhaiteraient s'équiper de connectivité par satellite hésitent très fortement à utiliser la solution Starlink simplement du fait de la dépendance que ça créerait envers un acteur jugé comme assez peu fiable comme Elon Musk.
Ces derniers mois, Starlink est régulièrement attaqué. La Russie et la Chine cherchent à brouiller les signaux de ces satellites et d'après Paul Warrer, le réseau Kuiper pourrait connaître le même sort.
C'était l'IA Roisin Pilot. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirs de drones explosifs. Ils auraient fait la nuit dernière au moins 3 morts dont 2 dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Enfin, en football, le Paris du Paris Saint-Germain. Le champion de France vise une finale en Ligue des Champions, 5 ans après la première perdue contre le Bayern Munich. La qualification passe par un bon résultat ce soir à l'Emirates Stadium sur la pelouse d'Arsenal. Le club londonien est invaincu chez lui depuis 2 saisons dans cette compétition. Arsenal-Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match à suivre sur RFI à partir de 19h TU. Voilà pour le programme de la soirée, mais tout de suite sur le Pont des Arts avec vous, Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, et à tout à l'heure sur le Pont des Arts avec Ben l'Oncle Soul. Ça démarre dans 30 secondes.